La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Parler de sexualité, de masturbation, de plaisir avec ses enfants, ce n'est pas toujours facile. Certains parents sont gênés, mal à l'aise ou ne savent tout simplement pas comment ni quand aborder le sujet. Et pourtant, c'est essentiel. Si vous êtes parent, un livre devrait vous aider. Il vient de sortir, s'adresse aux enfants, aux petites filles, plus particulièrement des 4-5 ans, ou en tout cas à partir du moment où elles posent des questions. Il s'intitule « Éléphantine veut tout savoir sur sa zézette ».
Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin.
Parler de ce livre, mais aussi de l'apprentissage du plaisir, de la sexualité, de l'importance de l'EVRAS, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, j'ai le plaisir de recevoir trois invités ce soir. Alors déjà, bonsoir à toutes les trois.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors tout d'abord, Natacha Delocte, vous êtes auteure avec Laurent Carpentier de ce livre, donc « Éléphantine veut tout savoir sur sa zézette ». Vous avez écrit le scénario, le texte, et c'est Laurent Carpentier qui a mis tout ça en image. Vous êtes par ailleurs artiste plasticienne. Joëlle Smets, vous êtes sexologue clinicienne, membre de la Société des sexologues universitaires de Belgique, mais vous écrivez également des chroniques sexo pour le Swarmag. Et enfin, Sophia Sedouk, vous êtes la référente en matière d'EVRAS à la Fédération laïque des centres de planning familial et une ancienne animatrice EVRAS. Alors, avant de vous donner la parole, mesdames, on va donner la parole au personnage animé de Natacha Delocte. On va donner la parole donc à Éléphantine et à sa grand-mère.
Mamie, regarde! Avez-vous déjà observé la façon dont vos enfants sont fascinés par tout ce qui nous paraît banal à nous dans nos vies d'adultes? Une pomme de pin, un ver de terre, un papillon, les avions dans le ciel! Mais oui, bien sûr! Et c'est formidable de les voir ainsi! Et c'est donc bien naturel qu'ils soient également curieux d'explorer leur corps et leur sexualité dès le plus jeune âge! Mais sur ce sujet, ils se voient généralement rabroués lorsqu'ils sont surpris. Pourtant, cette découverte est une étape de développement normale et nécessaire pour l'épanouissement sexuel de la vie adulte. C'est pourquoi nous avons conçu ce livre, pour être utilisé comme support afin de parler de ces sujets en toute simplicité et d'aider les petites filles à mieux comprendre leur corps à partir d'informations correctes, pour mieux se l'approprier et dans une perspective d'épanouissement. Aidons-les à apprendre dès la petite enfance le respect des différences, la notion de plaisir, d'intimité et de consentement mutuel. Partagez autour de vous! Plus vous serez nombreux, plus nous aurons la chance de voir ce livre exister! À bientôt, les amis!
Alors, Natacha Delocte, on voit qu'on a déjà quelques éléments de réponse dans cette petite capsule, oui, mais expliquez-nous un peu ce qui vous a motivé à écrire ce livre.
Alors, j'ai écrit ce livre au départ en 2013, lorsque ma fille était petite, parce que j'avais cherché un livre pour enfants qui explique à la petite fille son sexe et sa constitution, et j'ai pas trouvé le livre, parce qu'en fait, tout simplement, pour les petites filles, ce livre n'existe pas. Pour les petits garçons, on peut trouver des livres qui sont plus ou moins bien documentés, mais pour les petites filles, on n'explique rien du tout. Mmh. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait là vraiment une discrimination liée au genre ancrée dès la petite enfance, et finalement, même quand on rentre dans un magasin de jouets, on se rend compte à quel point on est baigné en fait dans une société encore qui est très patriarcale et sexiste, avec tous les stéréotypes qui vont avec, comme par exemple la robe de princesse, la cuisinière, le fer à repasser pour la petite fille et des armes de toutes sortes pour le petit garçon et des gros camions, etc. Donc moi j'étais pas du tout d'accord avec cette éducation et j'ai ainsi écrit une histoire pour pouvoir parler de ce sujet tout simplement avec ma petite fille.
D'accord. Et comment est-ce que vous l'avez construit ? J'imagine que vous êtes appuyée sur le corps médical, sur des experts dans le domaine pour construire cette histoire et ce livre ?
Quand je l'ai écrit en 2013 donc pour ma petite fille, on n'avait pas encore beaucoup d'informations. d'informations sur le sujet. Mais entre-temps, on a reçu beaucoup, beaucoup d'informations, notamment Odile Fiot qui a réalisé un clitoris en trois dimensions à taille réelle pour nous montrer concrètement à quoi il ressemble. Il y a aussi un documentaire animé québécois qui est très bien fait, où on explique aussi un petit peu l'historique du clitoris. Il y a Emma qui a réalisé un blog qu'elle a appelé Check ta chatte, qui est aussi très bien fait, qui explique aussi plein de choses. Et puis voilà, il y a encore beaucoup beaucoup d'articles et d'explications qui sont venues entre 2013 et 2018, ce qui m'a permis en fait de peaufiner mon histoire au fur et à mesure des nouvelles informations que j'avais.
Et du coup, est-ce que vous avez l'impression que les mentalités ont évolué entre le moment où vous l'avez écrit et le moment où il est publié, c'est-à-dire aujourd'hui? Parce que je sais qu'au départ, vous avez vraiment eu du mal à le faire éditer. Vous l'avez envoyé à des éditeurs, ils ont refusé de l'éditer en disant que c'était quoi, trop tabou, trop touchy.
Bah là, c'était toujours la même phrase bateau. D'abord, beaucoup ne m'ont pas répondu du tout. Et puis alors, j'ai quelques éditeurs qui m'ont répondu, parfois 3 ans plus tard, en me disant que ce livre ne rentre pas dans la ligne éditoriale. Dans leur ligne éditoriale. Et donc, moi, quelque part, comme ma mission première auprès de ma fille était accomplie et que j'ai vu qu'il y avait vraiment encore beaucoup de difficultés de parler de ce sujet-là, ben, j'avais plus ou moins abandonné l'idée de publier le livre. Et puis, en fait, j'ai rencontré en 2017 Laurent Carpentier. Et donc, lui, il fait des dessins à partir de petits personnages rigolos. Et là, je me suis dit qu'en fait, l'histoire, à partir de petits personnages rigolos, allait amener une certaine légèreté qui allait être bénéfique pour l'histoire en fait. Et donc je lui ai envoyé le manuscrit et on a décidé comme ça, enfin il a accepté ma proposition, on a décidé comme ça de se lancer ensemble, ce qui fait que j'ai réenvoyé le manuscrit avec quelques illustrations de Laurent Carpentier en 2017 et puis là de nouveau j'ai eu que des refus, mais par contre j'ai pu sentir vraiment une évolution dans les mentalités parce que je sentais qu'à leurs yeux le projet devenait crédible. Et j'ai reçu à ce moment-là beaucoup de remerciements et d'encouragements. Ce qui fait que, voilà, même si leurs réponses étaient au final négatives, ces encouragements nous ont fait dire bon, on va quand même essayer de l'auto-éditer. On a ainsi lancé un crowdfunding.
Oui, ce qui vous a permis du coup de faire sortir le livre aujourd'hui. Joël Smets, le fait qu'il y ait eu autant de difficultés, mais aussi le fait qu'effectivement il n'y avait pas vraiment de livre axé sur la sexualité, l'apprentissage de la sexualité et du plaisir pour les petites filles. Est-ce que ça montre que la sexualité, et en particulier pour les femmes, ça reste encore tabou?
Mais
enfin, en tout cas, la notion de plaisir féminin, peut-être.
Oui, le plaisir est beaucoup moins tabou, mais il l'a été pendant très longtemps, parce que là, nous avions une vision de la sexualité qui était dictée par l'Église et qui nous disait que la sexualité nous éloignait des choses essentielles et de la spiritualité. Donc le plaisir était un sujet tabou. On pouvait avoir une relation sexuelle, mais uniquement si elle avait un but reproductif. Et puis, progressivement, enfin, les choses ont changé, mais pas si, il n'y a pas si longtemps que ça. Là, c'est dans les années 70 que les choses... change vraiment. Et donc là, on a commencé à avoir une vision de la sexualité qui est complètement différente. La sexualité devient l'endroit où un couple se rencontre, ça devient un rapport, c'est un rapport où le plaisir des deux partenaires est important. Donc les choses ont changé. Et c'est changé sous le coup de... Il y a eu la pilule, la libération de la femme, la perte de pouvoir du religieux. Donc, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont bougé, qui ont fait bouger les choses.
D'accord. Sophia Sidik, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, et je voulais dire aussi qu'il y a cette nouvelle mouvance au niveau des médias, par exemple avec hashtag #TaJouis, qui donne aussi cette voix au plaisir féminin, parce qu'on a toujours mis aussi le plaisir masculin à l'avant, alors que, hélas, ça, on essaye un petit peu de changer les choses. Et il y a vraiment les réseaux sociaux, les livres qui commencent à s'emparer de ces thématiques. Et donc, c'est relativement récent, comme le disait Joël Smets. Et ça s'adresse surtout à un public adulte. On parle pas de plaisir, en tout cas très peu, au niveau des enfants, aux enfants même. quand on leur parle de plaisir, ou par, je prends l'exemple de la masturbation, on leur dit de le faire dans l'intimité, sans évoquer cette notion de masturbation liée au plaisir. Mmh. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez neuf, et l'enfantine est vraiment dans cette mouvance-là d'associer la masturbation et le plaisir féminin également.
D'accord. Alors, on l'a dit, ce livre, il s'adresse aux petites filles plus particulièrement à partir de 4-5 ans. En fait, à partir de quel âge est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit, est-ce qu'on conseille de parler de sexualité aux enfants ?
Alors, selon l'OMS et l'UNESCO, il faudrait parler de sexualité dès la naissance. Donc dès le plus jeune âge, dès que l'enfant a des questions, parce que les enfants sont curieux, les enfants se posent des questions sur leur corps, sur l'intimité, sur le plaisir, sur les relations, et il faut pouvoir leur répondre adéquatement. Donc quand je dis adéquatement, c'est que il faut répondre par rapport à leur niveau de maturité et à leur niveau de développement psychosexuel. Et plus en fait un parent, et de manière plus large l'école et la société, parle de sexualité plus tôt, plus en fait les enfants vont avoir accès à des connaissances, mais aussi à des compétences et à des attitudes respectueuses envers eux-mêmes et envers les autres. Donc c'est vraiment assez important de commencer le plus tôt possible.
Donc ça veut dire quoi ? On conseille par exemple de faire de l'EVRAS, l'éducation donc à la vie relationnelle, affective et sexuelle, dès la maternelle ?
Mais bien évidemment, je crois que l'éducation à la sexualité doit se faire tout au long de la vie, et comme je l'ai dit avant, ça se fait dès le plus jeune âge. Mmh. Et ça commence également en maternelle, et si les parents le veulent, même avant. Je pense que c'est vraiment primordial, et en maternelle et en primaire, ce qui est surtout important, c'est de s'adapter, comme je l'ai dit déjà, au niveau de maturité et au niveau de développement psychosexuel, mais c'est également partir de leurs questions. Mmh. Donc c'est l'animateur, le prof, le professionnel doit savoir où se situe l'enfant en voyant ce qu'il y a derrière la question.
D'accord. Joël Smed, c'est vrai qu'on disait en introduction, parler de sexualité, de plaisir, de masturbation avec ses enfants, c'est pas toujours facile pour les parents. Ils savent pas toujours quel mot employer. Et c'est vrai que du coup, certains ont tendance à dire « Ah ben, se masturber, c'est sale. Non, non, ne fais pas ça. On interdit la masturbation. » Ça veut dire que les parents ont quand même un rôle important à jouer, parce que pour vous, c'est à ce moment-là que ça se construit, et ça peut mal se construire à cause de ce que les parents répondraient, par exemple.
Alors, il faut se rendre compte que la sexualité d'un individu se construit. Elle se construit tout au long de sa vie. Et cette construction se base sur... est influencée par les expériences personnelles de l'individu, donc des expériences sexuelles mais sensorielles aussi. Et cette sexualité est aussi construite par l'éducation. Donc des parents qui vont diaboliser la sexualité, ou qui vont dire que se masturber c'est pas bien, ou que le sexe c'est sale, bien sûr ça va influencer l'enfant, et l'influencer sans doute négativement. Donc c'est très important. En fait, la sexualité, c'est, beaucoup de gens ont l'impression que c'est quelque chose de complètement naturel, inné. Non, ça se construit. Et donc, il faut aider l'enfant à bien le construire en ayant une éducation positive.
D'accord. Vous, effectivement, Natacha Delocte, en tant que parent, j'imagine que c'est des choses qui vous parlent. Et, enfin, voilà, vous êtes vous-même posé des questions, et j'imagine que vous avez essayé d'aborder la question avec les bons mots.
Oui, donc c'est
les mots justes.
C'est pour ça qu'elle a écrit l'histoire, et donc j'espère vraiment qu'elle va pouvoir servir de support pour beaucoup de parents et des professionnels de la petite enfance. Moi, j'aime bien représenter cette notion de plaisir aussi, par exemple avec un morceau de chocolat, pour que je pense que c'est facile pour les gens de comprendre que, par exemple, si un enfant quand il mange un morceau de chocolat et qu'il prend du plaisir à manger de ce chocolat, si tout d'un coup son professeur, son parent ou un éducateur commence à lui dire que ce qu'il fait c'est pas bien, c'est sale, et commence à le gronder, eh bien l'enfant, la prochaine fois qu'il va goûter un morceau de chocolat, il va associer en fait ce plaisir qu'il a là à manger du chocolat, il va l'associer avec un sentiment de honte. Et que en fait, au niveau des autres plaisirs, eh bien, ça fonctionne de la même façon.
Sophia Sidouk, est-ce qu'il y a des mots justes, des mots qu'il faut utiliser avec les plus jeunes? Par exemple, ici dans le livre, on voit que toute l'histoire est assez poétique, et il y a beaucoup de tendresse dans l'histoire. On va utiliser le symbole de la perle, par exemple, pour parler du clitoris. Et en même temps, à la fin du livre, il y a vraiment les termes scientifiques qui sont bien présents. Est-ce qu'avec les enfants, il y a des termes à utiliser, à ne pas utiliser, des mots qui sont bons ou pas bons? Est-ce que vous avez des exemples un peu concrets pour aider éventuellement les parents qui nous écoutent?
Je pense qu'il ne doit pas y avoir de tabou. Il faut justement pouvoir nommer les choses avec les noms justes. Ça veut dire qu'au lieu de parler de zizi ou de zézette, il faut pouvoir exprimer le terme correct en disant « ben oui, il y a un pénis, il y a un vagin, il y a une vulve et faut, ou un clitoris ». Et justement, en fait, le fait de diaboliser en donnant des noms un peu plus mignons font aussi que c'est comme si ça reste encore tabou, c'est comme si c'est quelque chose encore sale et de pas bien, si je peux dire ça comme ça, alors que nommer les choses avec des termes scientifiques, ça pose pas problème. Tant que le parent, je pense, est aussi à l'aise avec l'utilisation de ces termes-là. En termes d'exemple, je me rappelle un peu de mes animations. J'étais, je crois, dans une classe de 4e primaire et à un moment, il y a un élève qui me parle d'homme fleur. Je comprends pas très bien la situation, donc je creuse un petit peu. Et en fait, l'enfant avait tout bêtement une question sur l'homosexualité. Et le fait de parfois tourner, ça ne met pas en fait l'adulte dans une situation de compréhension. Il faut parfois alors aller un peu creuser. Ouais. Et parfois juste dire un homme fleur, c'est peut-être un homme qui est homosexuel. Donc qu'est-ce qu'un homme homosexuel? C'est un homme qui aime les hommes. Et voilà, et ça permet de banaliser les choses et de rendre la sexualité beaucoup plus positive et moins taboue.
Alors, un des tabous au niveau du plaisir féminin, c'est notamment le clitoris. Enfin, je dis le tabou parce qu'on a l'impression que pour beaucoup de femmes plus âgées, le clitoris, finalement, ça reste assez mystérieux. Il y a une méconnaissance, en fait, du corps de la femme, une méconnaissance du clitoris. Ça, vous l'avez remarqué, vous, Joëlle Smets?
Oui, absolument. Mais il y a une enquête qui a été faite il y a un an ou deux en France. On a interrogé des étudiantes de une quinzaine d'années. Il y avait un quart de ces jeunes filles qui ne savaient pas qu'elles avaient un clitoris. Et si je me souviens bien, il y avait 80% qui ignoraient que ce clitoris avait des pouvoirs érogènes. Donc oui, ça reste encore un organe méconnu et qui est absent même des manuels scolaires. On voit qu'il y en a que un cette année-ci qui a intégré le clitoris dans ses planches. Et puis je me souviens que c'était il y a un an, c'est le fameux docteur Simès qui tient des chroniques médicales en France qui avait soutenu un ouvrage. C'était assez amusant, on expliquait les organes du petit garçon et la petite fille, donc ça s'adressait à des enfants de 4-5 ans. Pour les petits garçons, on montrait le pénis, les testicules, les spermatozoïdes qui allaient donner des bébés. Et pour la fille, il y avait juste la vessie et l'urètre. Donc le sexe avait, la zézette avait disparu.
Tout avait disparu.
Oui, alors il s'est défendu en disant mais qu'on n'a pas à dire ça à une petite fille de 4 ans, enfin... C'est étonnant. Donc oui, le clitoris est méconnu.
Et pourtant, c'est essentiel pour, comme vous le disiez tout à l'heure, pour la construction de la vie sexuelle de l'enfant qui deviendra adulte.
Ouais. Mais c'est vrai que le clitoris, il a une histoire derrière lui. Il a une histoire qui est terrible, enfin, qui est surprenante. On sait que, par exemple, pendant le Moyen-Âge, il était valorisé parce que...
Pour la reproduction.
Voilà, on pensait que la femme devait jouir, avoir du plaisir pour avoir des enfants. Donc on conseillait, on préconisait de caresser le clitoris pour que la femme tombe enceinte lors d'un rapport.
Oui, donc ça veut dire qu'à une certaine époque, il était valorisé.
Il a été valorisé. Et puis la science a fait des progrès, on s'est rendu compte que c'était tout à fait faux, que en fait la femme ne devait pas avoir du plaisir pour qu'une grossesse se fasse. Donc on a oublié le plaisir féminin, le clito. Et puis le clito est revenu au 19e. Et là, il a été vraiment diabolisé. Il y a même chez nous... Il y a des médecins qui considéraient qu'il était responsable de pas mal de problèmes de santé, l'hystérie. On conseillait de supprimer, de couper chez nous en Europe. aux États-Unis. Donc on a excisé des centaines de femmes.
D'accord.
Et puis il y a Freud qui a dit aussi que voilà, l'orgasme clitoridien était un orgasme immature, qu'il n'y avait que l'orgasme vaginal qui comptait. Donc il a une histoire compliquée.
C'est ça, et donc tout ça fait partie des représentations qu'on a aujourd'hui du clitoris.
Mais moi, si je puis dire, c'est la constatation que je me suis faite, c'est qu'on passait ainsi de la méconnaissance de nos anatomies sexuées, nous les petites filles, au matraquage de publicité où la femme est utilisée comme marchandise, hein, c'est vraiment le culte de la femme objet, et puis les jeunes adolescents, ils ont très vite accès aux films porno avec leur téléphone et voilà, donc c'est violent en fait comme apprentissage de sa sexualité.
Alors un des points qui apparaît aussi dans le livre et qui vous semble important, enfin que vous me disiez Joël Smith, là c'est vraiment important, c'est la question de la masturbation. En quoi la masturbation est essentielle, si on peut dire, si on peut poser la question comme ça?
On dit qu'il y a trois piliers dans la vie sexuelle d'un individu. Il y a ses fantasmes, les rapports avec l'autre et la masturbation. Et la masturbation, c'est une pratique qu'on garde toute sa vie, qui commence très tôt et qui est la découverte du plaisir. Et on sait que plus une personne se masturbe, plus elle va connaître son corps, elle va savoir ce qui lui fait plaisir et le rapport avec l'autre va être facilité.
Mais ça, c'est quelque chose qui se fait dans l'intimité. Ça, c'est aussi un des points qui ressort assez bien, je trouve, dans cet ouvrage, dans ce livre pour enfants. C'est vraiment que ce sont des choses qui se font dans l'intimité. Il y a cette notion d'intimité qui est importante à faire comprendre aussi à l'enfant.
Oui, en effet, on n'interdit pas l'enfant de se faire du plaisir, mais on accorde vraiment une importance à la notion d'intimité. Ce sont des choses que l'enfant peut faire, mais dans son intimité.
Sophia Sedouk, donc là on voit, on a parlé du livre, on a parlé de notion de plaisir, de masturbation. Est-ce que ce type d'ouvrage qui aborde ces thématiques-là, ça peut être un outil pour faire justement de l'EVRAS, donc l'éducation à la vie relationnelle, affective, sexuelle, dans les écoles? C'est vraiment un outil qui peut être, c'est le type de livre que vous pouvez utiliser directement?
Bien évidemment, mais tous les livres qui parlent de ces sujets peuvent être des outils sans être des outils parfaits. Ça dépend vraiment des thématiques abordées et des discussions qu'il y a avec les élèves.
Et des questions aussi, j'imagine, qui viennent des élèves, comme
exactement,
vous disiez tout à l'heure.
C'est ça. Donc ça dépend vraiment de ce que les élèves vont pouvoir apporter. Elephantine est bien évidemment un outil qui peut être utilisé par les parents et par les professionnels, parce qu'il part de manière très pertinente du corps, des parties intimes, du plaisir, de l'intimité. Et puis, il parle de manière également adéquate, donc avec un langage adapté aux plus jeunes, si je peux dire ça comme ça, même s'il va utiliser les vrais mots. Et moi, ce que j'apprécie vraiment particulièrement, c'est le petit lexique qui est à la fin, qui va permettre en fait aux plus jeunes de comprendre des mots compliqués en utilisant des mots plus simples.
Alors quand vous dites comprendre des mots compliqués en utilisant des mots plus simples, c'est-à-dire concrètement
Que par exemple, quand on va parler de consentement ou d'intimité, on va donner l'exemple du consentement, c'est le fait d'être d'accord. Que les deux personnes sont d'accord d'avoir soit des relations sexuelles, soit de se faire plaisir, etc. Donc c'est en utilisant des mots qui sont un peu différent, un peu plus vulgaire, dans le sens un peu plus commun que tout le monde utilise, qui va permettre aux enfants de mieux comprendre en fait ce qu'on dit derrière les termes un peu plus compliqués.
Alors ici, on a vu que c'était important de faire de l'EVRAS donc dès le plus jeune âge, on l'a dit dès la maternelle, dès la primaire, et puis de poursuivre ça évidemment dans l'adolescence, avec évidemment avec chaque partie, à chaque âge, un vocabulaire et une façon de le faire différente. L'EVRAS, il est censé être généralisé en communauté française, et pourtant concrètement, ce n'est pas vraiment le cas. Il y a encore beaucoup d'élèves qui ont une fois par an, voire une fois tous les deux ans, une heure d'EVRAS et c'est tout.
Ou pas du tout.
Ou pas du tout.
La généralisation de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle est toujours pas effective en Fédération Wallonie-Bruxelles, malgré l'ajout de l'EVRAS au décret mission de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé. Ça, je tiens à préciser.
Depuis 2012, effectivement, c'est dans l'émission de l'enseignement.
Malgré le protocole d'accord entre les entités fédérées et francophones, et malgré la circulaire qui a été envoyée par la ministre de l'enseignement fondamental et secondaire, Marie-Martine Schinz. L'Evras, et pourquoi ? Parce que ça a encore laissé vraiment au bon vouloir des établissements scolaires, et que, en tout cas, tout n'est pas réglé, même entre les secteurs. Et là, justement, la Fédération laïque des centres de planning est à l'initiative, avec SIDASOS, des stratégies concertées EVRAS, qui rassemblent plus ou moins plus d'une trentaine d'institutions coupoles, dont l'objectif principal est vraiment de parvenir à un consensus sur les fondamentaux de l'EVRAS.
D'accord. Est-ce que on parle aussi, par exemple, de label EVRAS, parce que c'est pas tout de faire de l'EVRAS. Il faut aussi, j'imagine, avoir des personnes compétentes pour le faire, parce que pour le moment, il n'y a pas de label.
Il existe un label que la ministre Simonis a mis en place pour la jeunesse, mais il n'y a pas de label qui existe pour l'ensemble des différents niveaux de pouvoir qui sont concernés par l'EVRAS. Donc il n'y a pas un accord dessus, clair.
Il y a des organismes qui peuvent dire, voilà, nous on fait de l'EVRAS, sans qu'il y ait nécessairement une certification ou qu'il y ait une validation des compétences des personnes qui vont faire de
l'EVRAS.
Tout
à fait.
D'accord. On arrive déjà à la fin de l'émission, mais je voudrais quand même revenir sur deux, trois points peut-être avec chacune d'entre vous. Alors peut-être tout d'abord, Natacha, donc là, il y a ce livre, donc « Éléphantine veut tout savoir sur sa zézette », livre qui devrait être suivi par un deuxième sur Renardo.
Oui, tout à fait. Donc on est en train de préparer le deuxième. Donc j'ai déjà écrit l'histoire. Comme par hasard, c'était beaucoup plus facile à écrire étant donné que le sujet est beaucoup moins tabou. Donc Laurent Carpentier a commencé les dessins. Je pense qu'il a beaucoup plus facile aussi avec le sujet. Et d'ailleurs, je peux déjà dire qu'à mon avis, ça va être un petit bijou. Et alors, en fait, avec la vente des livres d'Éléphantine, on compte financer les livres, l'impression des livres de Renardo et faire des petits coffrets pour pouvoir vendre les livres en binôme. Comme ça, les petits garçons peuvent lire le livre d'Éléphantine et la petite fille peut lire le livre des petits garçons. Pour apprendre à se connaître, tout simplement, et pour en essayant que ça puisse aider à avoir une société un peu plus égalitaire et respectueuse les uns des autres.
D'accord. Et alors vos livres, on peut les trouver où?
Sur
votre site et en librairie?
Le livre d'Éléphantine est sorti il n'y a pas très longtemps, donc j'ai pas encore eu le temps d'aller dans les différentes librairies à Bruxelles et en Wallonie, mais on peut acheter le livre en ligne sur notre site www.lenéané.be.
D'accord. Et aussi, j'imagine, chez vos différents partenaires.
Oui.
Parce que, évidemment, vous avez eu du soutien, vous le disiez, vous avez fait un crowdfunding, vous avez eu du soutien, notamment des centres de planning familial, enfin, donc la Fédération laïque des centres de planning familial, mais aussi d'autres soutiens.
Oui. En effet, en plus de nos 135 contributeurs pour le crowdfunding, il y a des organismes et des associations qui ont choisi de participer au crowdfunding en échange de livres. Et alors, on est rentré en contact avec la Fédération laïque des centres de planning familial, représentée ici.
Voilà.
Le Centre d'action laïque, représenté également ici. Les francophones Bruxelles, qui sont plus connus sous le nom de la COCOF. Il y a le GAMS qui lutte notamment contre l'excision, le Conseil des femmes et alors SILASOS.
D'accord. Ok. Sophia Sédouk, peut-être juste un mot aussi, vous, par rapport aux recommandations qu'on peut faire en matière d'EVRAS. Donc on sait qu'on a des élections qui vont arriver là très prochainement. Quelles sont pour vous vraiment les recommandations, les choses qu'il faut améliorer, changer en matière d'EVRAS?
Alors nos recommandations, c'est vraiment de donner les moyens à l'ensemble des professionnels de tout secteur confondu, des moyens de permettre de mettre en œuvre cette généralisation de l'EVRAS. Une recommandation que je donnerais vraiment, c'est tout de même de mettre l'EVRAS dans l'ensemble des déclarations de politique générale des différents niveaux de pouvoir concernés. Et j'aimerais rappeler, parce que ça me semble quand même important, que l'objectif principal des professionnels, c'est que tous les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qu'importe les réseaux et qu'importe le type d'enseignement, aient accès à une éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et accès à l'information.
Ouais, et accès à l'information, et on va dire le plus tôt possible. Vu ce qu'on a dit aujourd'hui, je pense que ça montre l'importance de vraiment, très jeune en tout cas, dès qu'ils se posent des questions, qu'ils puissent avoir des réponses et des réponses claires et précises à leurs questions. Mais en tout cas, merci à toutes les trois et merci aussi à Joëlle Smith. On peut retrouver vos chroniques sur le site du Soir Mag et Éléphantine. On la retrouve donc sur le site lenéané.be. Merci à toutes les trois. Merci à vous de nous avoir suivis et une très belle soirée sur la première.
Merci.
Avec plaisir.
En quête de sens
sur la première.